élevée, la plateforme de l'heure. Le 4
avec votre boy Tony.
Shout out Larry derrière la cam.
Élevé.
Un autre épisode aujourd'hui avec Sheldon Placido.
Comment ça va, tout le monde?
Ça va bien, toi?
Yes, sir. On est content de te recevoir aujourd'hui.
Ben, merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Je pense qu'on va avoir une belle conversation. Un invité acteur, en fait, pour le préciser. Fait que la première fois qu'on en reçoit un aujourd'hui, on est bien intéressé à savoir un peu ton parcours, comment ça se passe aussi cet univers-là, parce qu'on n'a pas toujours la chance de voir un peu derrière les rideaux, si tu veux. On voit les films, on voit les figurations, on voit le produit final, mais c'est quoi un petit peu, tu sais, le parcours, qu'est-ce que ça prend, les qualifications, c'est quoi les insides un petit peu. Je veux qu'on fasse le tour de ça aujourd'hui. Puis ça va être une belle conversation. Puis sinon, toi, Tony, comment ça va aujourd'hui?
Ça va, tranquille. On a arrêté à club, man, ça fait 2 semaines.
Let's go!
Yes, man. C'était tough, pas facile, mais c'est fini, man. C'est derrière moi, dans ma tête, la club, ça n'existe plus, man.
Nice, belle mentalité, man. C'est probablement le meilleur cadeau que tu peux faire à ton corps 100%. Et ton portefeuille.
Ouais, c'est ça, surtout le portefeuille, hein?
Ouais, 100%, ben oui, c'est vrai, man. Puis toi, sinon, qu'est-ce qui se passe avec vous, les boys? The Cats, what's up?
Ça va bien, man. Fait fret de ce temps-ci sur le chantier.
Ça doit.
On garde le moral puis les mains gercées.
Ben ouais, that's it. Puis toi, Sheldon?
Ben écoute, ça va. On se lance des projets le plus souvent possible.
Nice.
Donc, tout ce qui est par rapport à l'acting, c'est sûr que tu sais, il y a des périodes qui sont plus mortes.
Ouais.
Comme là en ce moment, tu sais, l'hiver, c'est vraiment comme les périodes qui sont le plus mortes. Mais sinon, je me lance des projets de mon côté personnel, puis j'essaie toujours de me garder actif. Fait que,
let's go, constance, man.
Ben ouais,
c'est,
ben
ouais. Faut, man.
C'est exactement pour ça qu'on est là, man.
Ben ouais, puis je me demande là, comment ça marche un peu, là, explique-nous un peu pour nous à la maison, puis même pour nous aussi, moi, puis The Cats. Comment ça fonctionne? Ça a parti comment, ça, le goût de commencer à faire du acting? Est-ce que c'est depuis que t'es jeune, tu regardais des films, puis ça te passionnait, tu sais? Parce que moi aussi, veux pas, ça m'a déjà passé dans la tête, mais j'ai déjà, devant les caméras, veux pas, tu sais, là, c'est moins pire, là, on est rodé un petit peu plus, on a plus nos aises, mais au début, j'étais pas tant aisé. Comment ça marche? Comment c'est parti, cette passion-là, si on veut?
Ça a été vraiment... Depuis que je suis très, très jeune, en fait. Tu sais, depuis la cinquième année. En fait, en cinquième année, même pas en quatrième année, j'avais un ami au primaire qui faisait des vidéos sur YouTube.
Okay.
Puis moi, dans le temps, je pensais que c'était inaccessible juste ça, genre. Tu sais, faire des vidéos, je faisais comme, tu sais, des... J'avais aucune idée qu'on pouvait faire un compte. Puis faire des vidéos, je pensais que c'était comme pour les gens qui sont spéciales. Puis lui, il m'a montré que non, tu sais. Fait que... Puis j'étais comme, OK, ben ça me tente de l'essayer. Puis au début, ça ressemblait à rien. Au début, là, on parlait vraiment de comme je me filme avec mon iPhone vertical, même pas iPhone, un iPod, là, je veux dire, un iPod Touch 4, c'est la vieille chose, puis je me filmais, puis je faisais juste parler, puis ça a juste continué comme ça, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des vidéos horizontales, les vrais formats,
ouais.
Puis ensuite, tu sais, j'ai continué à faire des vidéos, puis lui, il s'est distancé un peu plus, il a été plus dans le côté de la musique, mais moi, j'ai juste continué à faire ça, genre, très longtemps, j'ai jamais été constant trop longtemps, fait que, mm-hmm. Tu sais, il y a des périodes où j'étais plus mort, mais sinon, tu sais, j'ai toujours trouvé des petits concepts à faire chez nous, je m'inspirais beaucoup de YouTubeurs français aussi dans le temps, puis au final, ça s'est juste développé à ce que j'ai rencontré un de mes amis, il y a peut-être 4 ans d'ici, qui s'appelle William, puis lui, il est juste arrivé dans la classe, puis il était comme, ouais, moi, je suis un acteur professionnel, puis j'étais comme, fait que, non seulement être YouTuber, c'est accessible. En plus, on peut devenir acteur, tu sais. Fait que là, j'étais comme, mais wow! Comment est-ce que je fais? Fait que je me suis beaucoup rapproché de lui pour en connaître un peu plus. Puis au final, c'est rendu mon meilleur ami. Mon meilleur ami. On est super proches. On se voit très souvent. Puis il m'a juste ramené dans son agence. Puis aujourd'hui, je fais partie d'une agence. Puis le métier a juste débarqué d'ici. Puis maintenant, c'est des auditions, des ci, des ça. Fait que
cool.
Ça part de là, man. Ça part d'une petite passion de quand t'es kid. Puis après ça, ça se transforme en métier.
Puis les vidéos que tu faisais, c'était quoi? C'était des vlogs? C'était genre, qu'est-ce que tu faisais? Genre, t'avais quoi, quel âge pour te mettre en contexte à peu près?
Mais t'sais, quand j'étais en cinquième année, donc okay. J'avais environ 9 ans.
Ouais, à peu près.
T'sais, j'avais environ 9 ans.
Ça a commencé tôt pareil. Les...
Ah, ça a commencé très tôt. Tu sais, j'avais aucune idée de ce que je faisais, je connaissais rien. Moi, quand j'avais 2 vues, c'était quelque chose. Là, t'sais.
Nice. Fait que ton chummy, dans le fond, lui, il savait ça. Il faisait comme quoi, des vlogs ou juste parler devant la caméra. Puis genre.
T'sais, lui, il faisait comme des vidéos, je dessine un personnage. Genre, t'sais, il faisait okay. vraiment des petites vidéos, puis pareil comme moi, avec son sel, c'est tout, rien de plus.
Il filmait, puis exact, de fil en aiguille, tu sais, tu ouvres ton compte YouTube, après, là, tu uploads ta vidéo, puis là, t'as 2-3 vues, puis... Mais t'aimais ça, le process behind, de justement, excusez-moi l'anglicisme, mais le processus derrière ça, toi, ça te passionnait, ça te branchait, ben oui. Juste être devant la caméra, puis dire, OK, ouais, je vais me faire des petites vidéos, c'est quoi que tu faisais exactement comme vidéo, genre...
Oh mon Dieu, on parle de
quand t'étais tout. Jeune, t'as commencé à faire quoi, c'était quoi les vidéos, des vlogs, des dessins,
ça
des...
a commencé avec comme des vidéos, ouais, je vais vous présenter la chaîne, puis j'ai fait genre 4 vidéos pour présenter la chaîne YouTube, okay. Tu sais, que je savais vraiment pas ce que je faisais, puis ensuite, tu sais, je me suis inspiré de plein de YouTubers, fait que ça a été sur des vlogs, ensuite on a été genre, je faisais des vidéos ouverture de cartes Pokémon, okay, tu sais, genre nice. Je faisais plein d'affaires là-dedans, puis je me suis vraiment retrouvé à un moment donné sur une niche de faire des vidéos de parcours.
Okay.
Je faisais du parcours, moi, quand j'étais plus jeune.
Fait que, ah ouais, là, malade,
tu sais. Tu sais, je faisais ça. Puis ensuite, j'ai rechangé de niche. J'ai été plus vers des vidéos gaming ensuite.
OK.
Puis là, ben, je rechange de niche pour m'en aller sur des vidéos de plus grand format. Puis éventuellement, peut-être même des films.
Nice, nice, nice. Puis on s'entend qu'il y a quand même, tu sais, une bonne... Ben, une différence. Il y a même des similarités, bien évidemment, entre être acteur puis être créateur de contenu sur YouTube. Est-ce que tu as toujours gardé... un peu ce comment je pourrais dire ça, le côté créateur de contenu, est-ce que tu l'as toujours gardé, est-ce que tu l'exploites toujours de temps en temps, genre en faisant des vidéos plus sur YouTube? T'sais, on a vu justement, on va en parler plus tard dans l'émission, mais on avait, tu as fait un super beau projet aussi là, que tu vins ton une peur qui était l'acrophobie en tant que telle, que ça j'ai hâte d'en parler parce que c'est vraiment un beau projet que tu nous as amené.
Merci.
Mais à mise à part ça, est-ce que tu continues à faire du contenu un peu aussi sur YouTube de temps en temps, genre c'est...
Sur YouTube, tu sais, avant j'étais vraiment plus constant, comme j'ai dit.
Okay.
J'étais vraiment plus sur quelque chose de constant. Avec le temps, j'ai changé complètement de format qui nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent à investir, etc. Je veux pas, tu sais, on n'a pas une grande fortune quand on commence. Mais tu sais, je trouve toujours une façon de quand même produire quelque chose. Donc, que ce soit sur Instagram, je me fais des petits reels une fois de temps en temps. Ça va être sur TikTok. Sur TikTok, j'avais vraiment plus une niche bodybuilding un peu. Là. Je pense à des vidéos de posing, etc. Mais ça, c'est comme, c'est une autre niche complètement. Fait que j'ai toujours vraiment gardé cet aspect-là. J'ai jamais été, comme j'ai dit, constant en tant que tel. Mais sachant que là, en plus, j'entre dans une niche où est-ce que c'est comme des documentaires, des films, décider ça, je pourrais jamais être constant à chaque 2 semaines. Il va y avoir une vidéo qui sort.
C'est sûr, on s'entend. C'est beaucoup de contenu, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de fonds aussi. Tu as besoin d'avoir du monde autour de toi. Tu as besoin d'avoir une équipe aussi autour de toi là-dedans. Fait, comme tu l'as dit, c'est pas genre de juste prendre ton téléphone puis faire aujourd'hui, guys, on va faire un live ou on va faire un vlog puis on va juste parler de X, Y, Z, whatever.
Ça.
Fait, comme tu as dit, beaucoup plus de préparation, c'est sûr,
c'est
pour
ça.
Le contenu YouTube. Puis ça me ramène aussi, là, on parle pour les gens à la maison, exemple, qui n'ont jamais fait d'acting ou quoi que ce soit. T'sais, toi, dans le fond, tu avais un contact, comme tu nous as dit, qui te fait rentrer un peu dans la business, si on peut dire ça comme ça, avec son agence. Comment ça fonctionne, exemple? T'es pas un acteur, mais tu veux devenir un acteur, ça t'intéresse, ça te branche, comment ça fonctionne, c'est quoi le processus derrière ça?
Ben, t'sais, il y a plusieurs processus où est-ce que tu peux juste faire tes propres créations, puis t'espères que quelqu'un va le voir, puis t'engager à un moment donné.
Okay.
Ce scénario-là est assez rare. C'est assez rare que quelqu'un va juste te voir puis te dire « OK, ben, tu sais quoi, j'aimerais ça genre t'interviewer pour comme soit mon agence, etc. » Mais moi, le truc, c'est que j'ai été vraiment chanceux parce que mon ami, son agence, ben, l'agence dans laquelle il participe, ils offrent des cours d'acting.
Nice.
Puis pour participer à ces cours-là, il faut que tu envoies une audition déjà en premier pour voir à quel niveau que tu es. Puis il y a un cours d'initiation à cette agence-là qui s'appelle « de Viens évaluer ton niveau ». Puis ça, dans le fond, c'est comme un cours pour justement voir où est-ce que tu en es rendu avec ton acting, si tu as besoin d'aller sur des cours ou si tu es directement né avec le talent. Mm-hmm. Puis ben moi, ça a tombé que j'étais pas né avec le talent. Fait que j'ai dû comme le monter. Mais c'est juste, tu sais, il y a des écoles en tant que telles qui vont te permettre de pouvoir te former. Puis ensuite, si tu veux faire partie d'une agence, ben tu vas appliquer avec, comme par exemple, un démo reel qui est comme tu démontres qu'est-ce que tu es capable de faire en niveau d'acting. Faut que tu aies un casting intéressant aussi d'une certaine façon, qui soit différent, qui ressort du lot d'un sens. Tu n'es pas obligé d'avoir un casting en tant que tel qui ressort du lot, mais tu as plus de chances parce que plus tu es différent, plus que l'agence va vouloir te prendre.
Ouais, 100%. Ben oui. Fait que comme, comment ça fonctionne? Exemple, là, on va dire, toi, tu veux aller justement dans une agence de casting, comme t'expliquais, t'envoies une démo. Les démos, c'est quoi? C'est genre, on va te dire, on va te mettre une mise en situation, puis on va faire réagir comme ça, exemple, ou comment ça fonctionne les démos dans le fond?
Ça va varier en tant que tête des agences. Okay. Tu sais, par exemple, au début, quand que moi j'ai commencé, c'était vraiment, on m'a envoyé des textes, on m'a dit, joue-le comme tu le sens. Puis mets ton émotion, mets ton talent là-dedans.
Nice.
Tu sais, directement, j'ai envoyé quelque chose. Ça ressemblait à rien. Ça ressemblait complètement à rien. Puis, tu sais, veux pas, ils vont être honnêtes aussi, ils vont te dire. Mais ils ont vu qu'il y avait quand même un petit fond de quelque chose de passion ou quelque chose qui est assez intéressant. Donc, ils ont décidé de me prendre dans l'école. Puis j'ai fait un cours pendant un an complet avec cette école-là. Puis après ça, j'ai juste passé une audition pour voir si je pouvais fitter dans l'agence. Puis ils m'ont pris tout de suite.
Nice, nice, nice. Puis si je peux te poser la question, les cours, ça ressemble, côté financier, ça ressemble-tu à ce côté hyper cher ou passé c'est on s'entend que c'est du privé à 110%. Y a pas, tu peux pas te dire, je m'en vais à l'école, puis je vais apprendre le métier d'acteur, puis je vais le faire au public, ça marche pas. Il faut s'enlever ça de la tête. Exemple, toi, comment ça fonctionne de ton côté? Là, tu sais que l'agence, j'imagine, c'est une agence qui est quand même pas prestigieuse, mais ça doit être une bonne agence s'ils sont déjà capables d'offrir leur propre cours pour le monde qui vient d'auditionner chez eux. Là.
Exact. Mais tu sais, c'est des personnes qui sont dans le milieu professionnel déjà dès le début.
Okay.
Donc, tu sais, par exemple, il y a Marie-Lou Mucret qui est une actrice UDA depuis qu'elle a genre 8 ans. Okay. C'est elle la cofondatrice de l'agence Verso, puis c'est vraiment juste. Elle a eu une idée, elle a lancé son agence, puis le but c'est de recruter des gens qui ont pas qui connaissent pas nécessairement le milieu. Donc ça ramène vraiment le côté professionnel très rapidement. Puis c'est pour ça qu'ils offrent des cours qu'ils, eux, dans le temps, ont pas eu. En fait, ils ont pas eu accès d'avoir des cours comme ça. Donc directement, ça l'a aidé à comme bâtir l'idée à travers l'école.
Nice.
Donc au niveau financier, il y a des personnes qui vont dire que c'est cher. Bien évidemment, il y a des personnes qui pourraient même dire que comme c'est trop cher pour qu'est-ce que c'est. Ça ne l'est pas. En réalité, tu sais, quand tu as des cours avec des professionnels qui vivent de leur carrière, tu n'as pas le choix de les écouter d'un sens parce que toi, tu pars de rien, tu peux avoir certaines connaissances, mais tu pars de rien, puis eux, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, s'ils ont fait ces cours-là, c'est pas nécessairement pour te crosser ni rien, c'est pour justement te dire, hey dude, si tu as accès à ce cours-là, fais-le, t'en as besoin. Donc, tu sais, oui, si tu en prends plusieurs en tant que tel, tu vas voir que oui, la facture devient lourde, mais. C'est pour ta carrière, c'est plus un investissement que comme une débourse. Là,
à long terme, exactement. T'sais, c'est même la musique. Hein? Je pense que tout ce qui est vraiment art, tous les enseignements derrière l'art, ça coûte cher. Ça coûte, c'est même dans la musique, oh, oui. Tu regardes musique technique, exemple, très basse, etc. Je pense qu'ils chargent des 15-20 000. Moi, je me rappelle, j'avais fait la demande il y a quoi, peut-être 5 ans, 6 ans, puis c'était ça les prix. Là, fait dire, on s'en sauve pas en bas de ça, mais comme tu l'as dit, je pense que quand t'as faim puis que tu sais que genre t'as vraiment la passion à l'intérieur de toi, parce qu'en bout de ligne, comme tu disais tantôt, il y a du monde qui ont le talent, mais il y a du monde qui l'ont pas, mais qui ont faim. Puis souvent, les gens qui ont faim vont être meilleurs en bout de ligne que le monde qui ont le talent, parce que souvent, moi, qu'est-ce que je remarque, c'est le monde qui ont le talent, ben ils s'assient sur leur laurier. C'est comme si, oh, moi, je l'ai facile, c'est facile pour moi. Fait que, bon, m'a prendre ça relax, puis j'ai rien à prouver, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouve que des fois, c'est important en vie, man. Des fois, tu l'as pas nécessairement, mais si t'as vraiment faim, tu vas l'avoir, man. Puis tu vas probablement dépasser lui qu'il a le talent inné envers lui, parce que lui, il se pogne le bang ou il veut pas vraiment s'appliquer dans qu'est-ce qu'il fait, etc. Fait que,
talent, ça s'apprend. La faim, non.
Exactement.
C'est la différence.
Exact.
100%. Puis, c'est intéressant quand tu disais tantôt ton ami William un petit peu là, qui t'a pas ouvert les yeux parce que t'en faisais déjà, mais il est comme venu mettre du concret que ça se peut de le faire, de voir quelqu'un qui réalise déjà un petit peu le chemin que tu veux prendre, de voir quelqu'un qui le fait déjà. Souvent, c'est ce qui nous ouvre les yeux puis qui nous donne un petit peu la force de se dire « Chris, moi aussi, je suis capable. »
Ben oui.
Fait que shout-out à lui, ça en prend des de même. Ça prend du monde un petit peu, surtout dans des trucs artistiques, comme Tony le disait. Il n'y a pas nécessairement tout le temps des cours où il y en a, il faut chercher. Il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui va te tendre la main, qui va t'amener vers le truc, t'amener à le faire. Fait que de voir des gens qui le réalisent déjà, qui ont peut-être des contacts ou des fois juste de savoir, hein. C'est comme il y a un joueur de hockey dans telle ville qui réussit dans LNH, dans les 5 prochaines années, tu vas sûrement en voir 3-4 sortir de là, c'est parce ça. Que les gens, dans tête, là, tout d'un coup, ils voient que c'est réalisable, tu sais. L'humain, on est comme ça, souvent, tant qu'on ne l'a pas vu, on pense que c'est inatteignable, qu'on peut pas le faire, qu'on peut pas le toucher parce qu'on n'a jamais vu personne le réaliser.
C'est vrai. Donc,
shout-out à lui. Puis ça m'amène aussi à me demander, toi un peu tout ça, cette passion-là pour le acting. Ça a commencé avec les vidéos court format sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est quoi sinon vraiment qui t'a donné le goût au départ de faire ça? C'est-tu des films ou des documentaires quand t'étais jeune, puis tu regardais ça, puis tu te dis « aïe, moi je me verrais là-dedans ».
C'est vraiment les YouTubers.
Les YouTubers,
c'est vraiment les YouTubers. On parle de comme, tu sais, les YouTubers de la génération, ça pouvait être genre, tu sais, là on parle de comme Cyprien, tu sais, vraiment dans ce temps-là. Ça a vraiment commencé de là, tu sais, je trouvais ça hilarant, je trouvais ça le fun. Puis ensuite, il y a mon parrain aussi, Yann Aspiro, qui est un acteur professionnel, qui s'est lancé là-dedans. Puis, tu sais, ça m'a juste donné le goût de comme, ben, toucher, en fait, la communauté d'Internet. Puis, ça a vraiment commencé avec, j'ai envie de devenir YouTuber, puis ensuite, là, c'est devenu, je veux devenir acteur. Puis là, c'est rendu, ben, je veux devenir quelque chose d'intéressant, tu sais, ça développe aussi ton côté mental, ça développe aussi ton côté, j'ai envie de dire, pas business, mais un peu d'un sens.
100%.
C'est dans le sens où est-ce que, genre, il faut que tu saches qu'est-ce que tu t'en vas faire, faut que tu crois en toi.
Surtout si tu t'auto-produis un petit peu, comme j'ose croire, là, tantôt Tony mentionnait le documentaire que tu as fait sur l'acrophobie. Je crois que c'est autosuffisant, en fait, que vous avez... produit votre propre documentaire, très intéressant d'ailleurs, deux parties, puis on voit un peu le parcours là, de ce que tu fais pour vaincre une peur. C'est une peur que tu avais vraiment, en
c'est
fait
une, c'est une peur qui me suit depuis au début, comme j'ai dit, je faisais du parcours dans le temps, et de faire du parcours me donnait de moins en moins le vertige. Cette fois-ci, l'acrophobie, je l'ai toujours eu, mais elle était cachée parce que je savais pas c'était quoi. Okay. Une peur, quand que tu découvres c'est quoi, c'est là que tu l'atteins réellement.
Mm-hmm.
Parce que tu sais, il y a des personnes qui vont avoir la peur des fonds marins, mais ils savent pas c'est quoi en tant que tel. Fait que depuis qu'ils savent que comme, oh shit, la thalassophobie c'est quelque chose, ben là ça increase, puis là c'est, je peux plus aller sur la mer.
Mm-hmm.
Ben, dans la mer, en fait. C'est vraiment ça. Puis moi, ça a commencé avec, tu sais, des petits vertiges. Je pensais que c'était le vertige que j'avais. Puis une fois que j'ai découvert c'était quoi l'acrophobie, je pense que ça c'était en 2020 ou en 2021, ben là c'était comme, je peux plus prendre l'avion, là, c'est fini. Là. En 2017, j'ai pris l'avion, puis depuis 2017, j'ai plus repris l'avion. J'ai découvert c'était quoi pendant, je pense, le confinement, genre c'était quoi l'acrophobie. Puis depuis, ça m'a hanté, puis c'était impossible pour moi soit de prendre l'avion, d'aller sur des balcons, d'aller sur... impossible. Zéro.
Puis dans le documentaire, on te voit là, faire, j'oublie le mot, là, mais accrocher du arbre en arbre, ouais. On voit faire de l'escalade, tu vas, je pense, à Saint-Sauveur-Tremblant, tu fais une couple de trucs dans ces deux parties-là. C'est quoi tu dirais, mettons toi, que t'as fait, t'as réalisé dans ce documentaire-là, puis que t'avais le plus peur, là, qu'il a fallu que tu vainques tes peurs quand même pour le faire, qui était le pire pour toi, en fait?
Ben, le son en parachute.
Ah ouais.
Le son en parachute, c'est de savoir que déjà de base, j'avais peur de prendre l'avion. Donc, juste d'embarquer dans l'avion, c'est quelque chose qui est complètement... c'était out of my mind.
Puis après ça, tu te jettes en bas.
Ben, c'est ça le truc. C'est fucké parce qu'il y a plusieurs personnes qui le font sans problème. Okay. Ils font, c'est leur passion. Ils font des fois, il y a des personnes qui font ça pendant 4000 sauts, dont Geneviève, justement, celle qui m'a fait sauter avec elle, mon instructrice de voltige. Puis c'est fou parce que pour eux, c'est leur vie, quoi.
Ouais, c'est
leur vie,
leur
ils n'ont aucun problème.
Pain, là, ils font de l'argent avec ça, c'est leur vie, comme tu
c'est
le dis.
C'est leur passion, là.
Ça tourne autour de ça, ils se réveillent le matin. Bon, on a combien de jumps aujourd'hui?
Exact.
Okay, on en a 10, 15.
Mais c'est ça, mais tu sais, eux, ils font ça parce que c'est leur norme.
Ouais.
Puis moi, j'avais complètement peur, c'était impossible de me l'imaginer. Ah, tu sais, encore moins le faire, mais juste de l'imaginer, j'étais pas capable. Genre, j'arrivais pas à savoir c'était quoi la sensation de sauter en bas d'un avion, parce que pour moi, c'est comme, tu peux pas faire ça, genre, tu sais, tu peux pas te pitcher en bas d'un avion.
Non, ça fait pas de sens dans ta tête,
ben non,
surtout quand t'as cette phobie.
T'es humain, t'es pas un oiseau, là,
non, exactement.
Tu pites pas en bas d'un avion, mais
oui.
C'est de savoir ça quand que t'as l'acrophobie ou que tu découvres pas encore le milieu, ça fait trop peur, surtout, mais justement, comme j'ai dit, quand t'as l'acrophobie, parce que c'est impensable, impossible. C'est quelque chose qui ne se réalise pas.
Fait que là, pour le monde à la maison qui n'a pas écouté le documentaire, puis by the way, on va mettre les links parce que c'est vraiment intéressant. Là, je vous recommande d'aller voir ça, guys. Ça va être dans la description. Là, juste pour faire un petit topo rapide, la différence entre l'acrophobie puis...
Le vertige.
C'est quoi?
T'sais, le vertige, c'est la sensation de peur en ayant comme une relation avec le sol. Donc, okay. Par exemple, quand tu es sur un balcon, tu regardes en bas, tu as une relation avec le sol. L'acrophobie, c'est la peur du vide. Ce qui veut dire que tu peux être, tu peux voir une vidéo, comme tu peux voir ben, quelqu'un sauter de plus loin, de savoir qu'il y a, il y a un lien avec les airs d'un vide. Ça, c'est l'acrophobie. C'est, tu n'es pas capable de le regarder. Moi, s'il fallait que je regarde des vidéos de personnes qui sautent en bas en parachute, ben, je ressentais un stress, je ressentais une anxiété. C'était impossible pour moi de comme, me sentir à l'aise. Le vertige, la différence, c'est que tu vas être, par exemple, sur... moi, l'acrophobie, ça a commencé parce que si je montais debout sur une table, j'avais peur.
OK.
L'acrophobie, ça commence vraiment... Il y a des certains niveaux, veux pas, mais moi, c'était très, très élevé. Puis s'il fallait que je monte debout ici... puis que je regarde en bas, c'était là, terrible. C'était okay. complètement terrible. Puis ça me suivait parce que je montais un escabeau. Un escabeau pour, par exemple, monter le tempo là, chez vous. Puis je pouvais pas le faire. Fait que c'était mon père qui devait le faire parce que je pouvais pas le faire. C'était impossible. Puis là, j'ai vu qu'il fallait que je fasse un changement. Ça, c'est au niveau de l'acrophobie. Pour le vertige, ça va être des relations un petit peu plus vertigineuses, comme on dit. Donc, si t'es plus élevé dans les airs, comme par exemple monter une cage d'escalier, si tu regardes en bas, puis que là, t'es comme, oh shit, ok, je suis quand même haut, mais tu vas pas, genre, tu vas pas commencer à avoir une crise de panique.
Non, c'est ça, c'est complètement différent. C'est ok, 100%. Fait que ça fait du sens. Fait que là, on part du fait que là, on est en 2021, tu viens de découvrir que t'es acrophobe, c'est comme ça se dit.
Acrophobe.
Ok, donc là, on part du fait qu'on est en 2021, t'es acrophobe. Là, combien de temps ça a pris dans le processus à dire comme, OK, il faut que je vainque cette peur-là. Genre, comment c'est venu à ton esprit là, de dire, OK, là, il faut vraiment que j'affronte ma peur puis que I'm gonna deal with it?
Pour vrai, c'est quand même assez intéressant parce que ça, l'histoire vient d'un point. C'est un seul point qui m'a dit, you know what, on va faire un projet.
OK.
L'histoire, c'était que je voulais aller voir le Mr. Olympia.
OK.
Je pense que c'était à Las Vegas ou c'était à... Miami, en tout cas.
Mr. Olympia, excuse-moi mon ignorance.
C'est Mr. Olympia, c'est la plus grande compétition de bodybuilder.
Ok, ok, parce nice.
Il y a Chris Bumstead, il y a Ralph Diesel. C'est les plus grands bodybuilders du monde. C'est la plus grande compétition de bodybuilding dans le monde.
Ok, cool.
Puis je voulais aller le voir avec des amis. Et quand que venait le temps de m'imaginer prendre l'avion, ben j'avais payé.
Okay.
Tout était payé. Mais je suis pas allé.
Okay.
Je suis pas allé parce que j'avais peur de prendre l'avion. Puis ça a juste stoppé l'expérience, elle est jamais arrivée. Fait qu'on n'a jamais été voir l'expérience juste à cause de moi. Eux, de leur côté, c'est juste qu'ils se sont dit, bon, si tu y vas pas, on va pas y aller. Ils auraient pu y aller, tu sais, d'un sens, mais ils ont décidé de pas. Mais moi, j'ai réalisé que, dude, je manque de quoi, là. Mm-hmm. Tu sais, j'aurais pu voir la plus grande compétition de bodybuilder, puis j'ai pas été parce que j'ai peur de prendre l'avion, man. Genre, je vais arriver l'autre bord, tu sais, faut pas que j'aille peur. Donc, ça à partir de là, j'ai appelé mon ami, puis j'étais comme, OK, Ruben, qui est mon caméraman, qui a fait une job incroyable, tu sais, de me suivre dans des expériences comme ça. Sachant que, tu sais, lui aussi, par exemple, dans les Via Ferrata qu'on a faites, il fallait qu'il me cadre d'une certaine façon. Il l'a fait sans problème. Fait que, tu sais, lui, c'est vraiment le GOAT, là, comme
nice,
on dit.
Shout-out, man. Shout-out.
Shout-out à Ruben.
Yes.
Fait que j'ai appelé Ruben, puis j'étais comme, « Hey, Ruben, là, on va faire quelque chose. On va vaincre ma peur. » Puis là, il était comme, « De quelle peur que tu parles? » J'ai présenté l'acrophobie, puis il était comme, « OK, c'est quoi ton idée? » Puis là, j'avais déjà fait mon plan. J'étais comme, « Là, on va faire ça. » Puis à la fin, on saute en parachute. Puis ça lui a pris, pour vrai, là, je pense, 0,2 secondes, puis il a juste dit, « Je suis done. »
Nice.
Il a juste dit, « Je suis done, j'embarque, je te filme, on fait ça. » Il a aimé l'idée tout de suite. Puis en fait, quand que j'ai proposé l'idée, je me suis dit, « Ça va jamais arriver. » Il va dire une excuse, puis l'idée va partir de ma tête. Mais quand il m'a dit, « Je suis done », j'ai juste fait, OK, là, on fait les plans, là, puis on book ça, puis on a booké ça avec des amis des fois, Laurent aussi qui nous a suivis une fois de temps en temps. Puis au final, ben, ça l'a juste donné, puis je stressais tout le long, tu sais, de me dire que j'allais battre ma peur, là, c'est ma plus grande peur au monde.
Ben oui, c'est sûr, se garde ça en tête, là, même moi, j'imagine ça, là, t'as une phobie, puis tu t'en vas la vaincre, puis en plus, c'est pas comme si tu t'es dit, je vais la vaincre, Loki, je vais la vaincre devant tout le monde qui vont regarder mon documentaire, puis tu sais, c'est ça qui
ben,
est nice.
C'est vraiment, ça a été vraiment comme l'élément key, d'un sens, c'était de me filmer. Si je le faisais... La caméra m'aide énormément dans des projets comme ça parce que je me dis, après ça, je vais avoir toute l'expérience sur filmé. Je vais faire mon propre montage qui va rajouter quand même du dynamisme sur quelque chose. Puis, ben, je vais garder ça toute ma vie. Fait que d'avoir comme un documentaire sur moi qui bat ma peur, ben, c'est un des plus grands souvenirs de ma vie. Genre.
Ben ouais, 100%. Puis c'est comme un peu une bouée dans le sens que tu le fais, puis tu le sais qu'après, tu vas pouvoir... même peut-être encore en apprendre, tu sais, ça va te rappeler pourquoi tu l'as vaincu, puis, tu sais, c'est comme un genre de, comment je pourrais dire ça, c'est un milestone dans le sens que, tu sais, c'est, ton accomplissement, tu l'as sur caméra. Fait que t'es capable de... Si jamais t'as cette peur-là qui te reprend, si on va en reparler après, tu sais, au moins, tu peux aller voir ça, puis t'es comme...
Exact.
Hey, regarde, je l'ai fait, puis en plus, c'est documenté. Puis... Fait que là, on se met en date, là, 2021, là, c'est quand ton voyage, c'était à peu près, c'était quand? C'était en 2022, 2023?
C'est en 2023.
OK, fait qu'en 2023, fait que là, t'as 2 ans que tu vis vraiment avec cette phobie-là en tant que telle. Là, on est rendu au moment où, OK, t'as parlé à Ruben, tu lui as dit, regarde, moi, j'ai ça, je veux faire le documentaire en tant que tel. Là, dans ta tête, c'est quoi qui se passe? Je veux dire... Là, t'as une phobie, là, puis là, faut que t'as vaincre, là. Puis je veux dire, moi, personnellement, je pense pas que j'ai une phobie quelconque, mais je me mets dans la tête de quelqu'un qui en a une, puis je me dis que c'est sûrement l'affaire la plus, genre, que tu dois sortir le plus de ta zone de confort pour affronter. Puis là, on parle du fait que, OK, l'idée a été mise en place. Là, le plan, tu as déjà travaillé, mais j'imagine qu'il y a un processus en ce moment où t'en parles à Ruben, puis que tu t'en vas sur la caméra faire la première activité. Comment ça a fonctionné, ça, l'anticipation, le stress derrière ça? Comment te deal avec juste le fait de le préparer, puis après de faire les activités, c'était quoi la relation que tu avais dans ta tête? Comment tu disais à ta conscience, « Hey, tu stops, là, regarde, je m'en vais le faire, peu importe qu'est-ce que ma petite voix me dit à l'intérieur. » Je m'en fous, là, je le fais. C'était quoi le mindset derrière ça?
Le mindset, c'était vraiment l'idée d'avoir le documentaire. Okay. J'avais déjà imaginé le documentaire d'une certaine façon, puis il est sorti comme je le voulais.
Nice.
Donc, de ce côté-là, j'étais vraiment content. Puis, juste de me filmer de mon côté, quand que j'étais chez moi, par exemple, si je faisais des plans chez moi ou les appels que j'avais avec Ruben, c'était des appels où est-ce que j'étais juste excité.
Okay.
J'étais juste content. J'étais comme, OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'est pendant l'activité, tu réalises ce que tu fais. Tu sais, quand on était, par exemple, à Crosse-Poix-Baragny avec Sylvain, on était devant le mur, puis tu sais, je regardais le mur de haut, j'étais comme, oh shit. Okay,
ça, c'est l'escalade, right? Ouais. L'escalade à l'intérieur. Là,
exact. Le premier mur d'escalade qu'on a fait.
OK. Ça, c'est la première activité, techniquement, que tu fais dans ton documentaire là, qui fait partie là, de vaincre ton acrophobie.
Exact, parce qu'il n'y a rien de meilleur, de mon point de vue, en tant que tel, qui pourrait vraiment te start dans les hauteurs. Tu montes le mur, tu regardes en bas, oh shit. Puis ensuite, c'est de réaliser que tu es en sécurité,
ouais,
qui t'aide énormément avec la... Puis ça, justement, on va en parler un petit peu plus tard par rapport au bungee, etc. C'est un gros key là-dessus. Mais c'est ça, juste d'arriver devant le mur, je regardais le mur de haut, j'étais comme, oh shit, je vais monter ça, genre. Mais c'est quand que, tu sais, on parlait devant la caméra, puis même quand que je parlais devant la caméra, puis qu'on en apprenait aussi sur Sylvain, etc., ben, tu sais, j'ai pas senti de peur du tout. Là. Fait que pour moi, j'étais content. Mais c'est quand que je me suis retourné, puis c'est comme, OK, le harnais est mis, oh fuck, le cœur qui bat, le ci, ah ouais, le ça, mais je me dis, dude, je suis sur ma caméra, le projet est en train d'arriver, je vais pas back off comme j'ai back off avec mon vol en 2023. Mm-hmm. Là.
Fait que c'est vraiment dans l'anticipation que vient le stress beaucoup.
Exact.
C'est vraiment de prendre le moment avant de le faire. Parce que quand tu es en train de le faire, t'as-tu ces petites voix-là qui disent t'es un méchant fêlé, qu'est-ce que tu fais à monter en haut?
Ben,
genre, c'est vraiment dans l'anticipation, pas dans l'action en tant que
tel. Ça, tu l'entends plusieurs fois aussi dans le documentaire. T'sais, dans le documentaire, tu m'entends, quand on fait par exemple la Via Ferrata, tu m'entends quasiment pleurer à un moment donné parce que je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis tellement une merde, nanana, puis tu t'insultes, puis c'est un processus qui est mental, mais qui est aussi normal d'un sens, parce que tu peux pas toujours être positif. Tu sais, quand que tu montes le burn puis que t'as peur, tu peux pas dire non, ça va aller, c'est correct, tu peux l'être, mais c'est correct aussi de sentir que, oh man, j'ai peur, mais tu sais, t'es là pourquoi, tu sais.
Mm-hmm. 100%. Puis le documentaire, comme tu disais, c'est un peu là pour te rappeler là, du pourquoi, du comment, de comme, car je vais le faire, c'est documenté, je vais le faire, puis je vais être content après.
Ben, exact.
Ça t'a beaucoup aidé là-dedans. Je trouve ça vraiment nice parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à faire ça nécessairement, de documenter un peu sur vaincre sa phobie. C'est quelque chose qui est très particulier, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouvais ça nice, justement, de t'avoir sur le plateau aujourd'hui, c'est d'en parler un peu, puis peut-être d'aider aussi, d'inspirer des gens aussi, puis de trouver des solutions, parce que souvent... je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a un dicton qui dit que les plus belles choses dans la vie sont derrière nos plus grandes peurs, derrière nos plus grandes phobies.
Oui.
Puis je pense que souvent, c'est dans l'action, comme tu disais tantôt, que c'est là que boum, ça débloque. Puis...
Ben, tu sais, j'ai eu des messages, moi, justement, après le documentaire qui soit sorti, qu'il y a des gens qui sont partis faire de l'escalade parce que ben ils avaient la peur des hauteurs. Ils sont partis faire de l'escalade, justement, juste après. Puis depuis, c'est rendu un truc qu'ils adorent.
Nice.
Il y a des personnes qui ont pris des abonnements justement chez le Crux juste après le documentaire.
Ah,
parce que
cool.
Justement, ils ont aimé genre le fait que comme OK, mais c'est possible, c'est safe. je vais juste me lancer. Fait que, il y a des personnes qui avaient l'acrophobie dans les 3 à 6 % de la population qui l'ont. Et ben, ils ont juste lancé le vidéo, ils ont aimé ça, puis ils se sont lancés aussi dans l'idée.
Puis de vaincre ces peurs-là, c'est-tu quelque chose aussi qui pourrait t'aider dans ta carrière de acting?
Beaucoup. C'est beaucoup. Moi, il y a certaines peurs en tant que telles que moi, j'ai un peu moins, comme par exemple la claustrophobie, qui est la peur d'être coincé. Puis tu sais, si tu as des scènes où est-ce que tu es coincé, ben, des fois, ça peut t'aider d'une certaine façon.
Ouais.
L'important, c'est de filer ta peur là-dedans, puis de ne pas avoir peur, justement, de quand tu es sur scène, ben, de ressentir les mêmes... Ben, sur scène, sur set, je veux dire, de ressentir les mêmes feelings que tu ressentais avant, parce que tu sais c'est quoi, puis maintenant, t'es prêt à les mettre sur l'image. C'est en plus pour ça.
Nice. Puis toi, mettons, dans ta carrière, dans le acting, y a-tu vraiment, comme là, tu nous parles de documentaires, t'as fait des shorts, des vidéos court format, YouTube, réseaux sociaux. C'est quoi vraiment ta niche? C'est quoi vraiment ton rêve, ton aspiration que tu dirais, là, ça, c'est vraiment ça que j'aimerais atteindre comme niveau, compléter un style de film ou des documentaires? C'est quoi ton univers cible, en fait?
De tout toucher. Okay. De tout toucher. Donc, tu sais, là, par exemple, on a fait un documentaire. Mon but, c'est d'en faire d'autres éventuellement pour me pratiquer là-dedans. J'ai comme plan de faire mon propre film aussi qui est là-dedans. Faire des activités, faire plein d'affaires qui touchent le milieu artistique. Même chanter peut-être aussi. Tu sais, c'est vraiment comme de découvrir le côté artistique puis de me surpasser dans des choses que je pensais jamais y arriver. Comme par exemple, vaincre ma peur des hauteurs. Tu sais, c'était quelque chose que je pensais jamais y arriver. Puis au final, en se lançant, c'est arrivé.
Puis c'est un peu t'es dans beaucoup dans l'autoproduction, c'est un petit peu, fait qu'il y a un côté entrepreneur aussi derrière ça que j'imagine, autre que faire partie d'un film, être juste acteur pour une réalisation, puis ils disent un peu le scénario, qu'est-ce qu'il y en est. Toi, t'aimes ça, avoir les rênes un petit peu, puis démarrer un projet de l'autoproduction, de la production de films, courts-métrages, c'est vraiment quelque chose qui te passionne.
En tant que tel, je pense que c'est même la magie qu'il y a derrière le monde artistique, c'est de créer tes propres affaires. Parce que avoir toujours quelqu'un qui te dirige, il y a des personnes qui aiment ce lifestyle-là, puis c'est correct. Mais moi, j'aime ça aussi, avoir mes propres idées, puis montrer au monde que t'es capable de lancer tes propres idées aussi dans le plateau. T'es pas obligé non plus de rester dans un milieu où est-ce que t'es contrairement, j'ai pas envie de dire patronné, mais d'un sens, oui, par le réalisateur, parce que tu veux pas, c'est aussi la job d'un acteur, tu sais, c'est vraiment de suivre les directions que le réalisateur te donne, mais tu peux toi aussi réaliser tes propres affaires pour toucher tout, en fait. C'est vraiment plus ça, tu sais. Fait que quand je me suis lancé le projet d'acrophobie, je savais que ça allait être mon montage à moi, je savais que ça allait être mes idées, puis je savais que ça allait m'aider à réaliser d'autres idées plus tard qui ont pris énormément de sens aujourd'hui, parce que maintenant, j'en ai pour minimum 6 ans de plus de création à chaque année.
Nice, quand même.
Puis quand tu as un projet comme ça, après, que tu autoproduis, c'est-tu quelque chose que tu peux amener à ton agence, puis qui peuvent t'aider un petit peu avec les démarches, ou qui peuvent se servir pour aller chercher un rôle ou quelque chose? Tu as un démo?
C'est clairement quelque chose que tu peux mettre dans ton CV artistique. De dire que tu as réalisé un certain projet comme ça, est-ce que ça va t'aider nécessairement à avoir des rôles? Pas vraiment. Parce que des rôles, ils vont vraiment aller chercher sur soit qu'est-ce que tu ressembles, qu'est-ce que tu es capable de démontrer comme jeu, mais ils vont pas nécessairement aller chercher ton côté réalisateur, parce que tu n'en as pas de besoin sur un set d'acteurs. Donc, ça va pas nécessairement m'aider de ce côté-là, mais ça aide toujours pour que les gens voient que j'ai de l'expérience dans le milieu, puis que je lance mes propres affaires, puis qu'ils voient que je suis quand même je suis sérieux dans le milieu.
C'est proactif.
Exact. Être sérieux dans le milieu, c'est la clé pour t'en sortir par après.
100%. Puis ça m'amène aussi à poser une autre question. Exemple, je veux dire, on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de frais reliés derrière une autoproduction. Exemple, que ce soit le documentaire justement que tu as fait, que tu dois avoir un vidéographe qui te suit, quelqu'un qui t'aide pour le montage. Ça, c'est toi, si je comprends bien, ouais, qui a fait le montage. Mais je veux dire, toi, comment t'as fait? Dans le fond, j'imagine, est-ce que t'as eu des sponsors? Est-ce que c'est possible aussi d'aller chercher des subventions dans ce genre de format de documentaire-là? Comment ça fonctionne?
Tu sais, en tant que tel, ça va être vraiment différent tout dépendamment c'est quoi le projet. c'est par exemple sur un film, tu peux avoir soit des déplacements de produits ou quelque chose, mais ça va être très différent que sur une production vidéo indépendante.
Ouais, 100%.
Production vidéo indépendante, c'est faut que tu présentes aussi, ça dépend aussi des sponsors, mais faut que tu présentes le produit de qu'est-ce que c'est. Alors que par exemple, sur des films, ça va être, on va te demander de mettre au moins une image. Par exemple, là, je dis Coca-Cola, mais comme faut qu'on voit le Coca-Cola quelque part. Mm-hmm. C'est vraiment plus là-dessus. Au niveau des subventions, c'est très compliqué. Au niveau des subventions, c'est très compliqué, surtout dans. Au niveau du gouvernement, parce que il faut qu'ils voient aussi d'un sens qu'est-ce que tu as déjà fait, puis qu'est-ce que ça leur apporte à eux. Donc, avoir des subventions, c'est très compliqué. Chercher des sponsors, il faut que tu ailles chercher des sponsors qui vont venir amplifier ton projet. Comme moi, par exemple, c'est le projet d'Acrophobie, j'ai eu le sponsor de Hornet Energy. D'ailleurs, je vous ai apporté aussi un petit sample pour que vous puissiez voir un peu c'est quoi.
Nice.
Donc, dans le fond, Hornet Energy, c'est vraiment comme la marque qui m'a accompagné là-dedans. Puis c'est dans le fond, c'est une compagnie de gel énergétique. C'est naturel. Il y a juste 3 ingrédients là-dedans. Puis ça vient en plusieurs paquets. Puis eux, ils ont vraiment décidé de comme m'envoyer leur paquet pour que je puisse, tu sais, le présenter d'un sens. Mais aussi parce que ça a leur rapport avec mon projet. Tu sais, si j'avais apporté du Hornet Energy sur, je sais pas moi, une production qui a rien à voir avec d'horreur. Le sport. Qui n'a rien à rapport du tout avec le sport, il m'aurait dit c'est quoi le rapport, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment plus pour ça. Alors que là, tu sais, on s'en va faire de l'escalade, on s'en va faire. Faut quand même qu'on s'entraîne d'une façon. Fait que, tu sais, au niveau du cardio, ça aide aussi énormément. Ils vont comprendre pourquoi est-ce que tu viens les chercher. Okay. Donc, c'est compliqué d'une façon, pas trop d'une autre, parce qu'il faut que tu aies une certaine idée de ton projet. Moi, quand j'ai parlé du projet, puis qu'ils ont vu qu'ils avaient moyen de pouvoir justement nous envoyer des produits puis nous montrer que, ben oui, on va t'accompagner là-dedans, ben, ils ont tout de suite dit oui. Tout de suite.
Ça fait du sens. Dans le fond, Hornet Energy, c'est comme pas un pre-workout, mais genre pre-workout naturel, si on veut dire ça comme
c'est
ça.
C'est des gels énergisants. Donc, okay. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va te donner l'envie de gratter à chaque fois. Tu sais, comme les gros pre-workouts qui ont comme énormément de caféine.
C'est exact. Sur le piton.
Exact.
Là,
exact. Tu sais, ces marques-là, c'est vraiment pour le bodybuilding un peu plus. Ces marques-là de gels énergisants, comme par exemple Hornet Energy, ils vont venir amplifier, tu sais, au niveau de la course. Quand que tu fais un marathon, par exemple, ben, tu sais, tu peux te prendre un Hornet Energy en plein milieu, ce qui est d'ailleurs une des main reasons aussi que la compagnie a lancé. Tu sais, des marathons, c'est quelque chose qu'ils utilisent énormément, des gels énergisants. Donc, ils ont fait des gels énergisants, mais qui ont complètement 3 ingrédients qui sont naturels. Fait que, tu sais, ça t'aide beaucoup dans des projets en tant que tel de sport, mais ça va pas non plus te donner le sentiment de piquer rien. C'est juste un petit truc qui est assez subtil, mais juste assez pour te dire « Hey, j'ai de l'énergie pendant mon workout. »
Ben oui, puis surtout que dans l'ère où qu'on vit en ce moment, où que on a besoin de cette énergie-là, surtout quand tu disais qu'on est un athlète de haut niveau, ou même si dans le bodybuilding, ou tu as besoin d'un petit coup de pied, comme on dit, là, petit boost, là, mais tu n'as pas le goût nécessairement de prendre plein d'affaires de vidange. Je sais pas, hey, des fois, je regarde ça là, derrière les pré-workouts, puis la liste est genre longue de même. Là, je regarde s'il y a genre 3 ingrédients. C'est là la différence aussi. Puis moi aussi, je veux dire, c'est tout à leur honneur aussi, parce que surtout dans le monde où on vit en ce moment, les choses qui sont raw, il n'y en a plus vraiment, des affaires crues qu'il n'y a pas 1001 additifs dedans. Il n'y en a plus beaucoup. Puis chapeau, man, c'est cool.
Exact. Puis tu sais, pendant le projet de l'Acrophobie, justement, il y a une partie qui était quand même assez intéressante. C'est entre le bungee puis le parachute. Le bungee, quand que je l'ai fait, j'ai eu extrêmement peur, mais c'était un stress. Comment que je pourrais dire ça? C'est un stress qui est assez différent que celui que j'avais senti quand j'allais sauter. Quand que je voulais aller faire le saut en parachute la première fois, dans le documentaire, ça ne l'a pas donné parce qu'il y avait des vents, etc. Donc, j'avais pris le Hornet Energy pour me donner comme le petit boost d'énergie que j'ai besoin. Quand j'ai été faire le bungee, la différence, c'est que je ne l'ai pas pris du tout. Parce que je l'ai juste oublié. Okay. Je ne l'ai pas pris du tout. Donc, c'est pour ça qu'on voit que je suis un peu plus comme « OK, là, je commence à avoir peur. » Mais je me suis dit, j'ai fait plein d'activités aussi qui nécessitaient d'avoir la confiance sur l'équipement. Donc, au bungee, ça a été un petit peu moins peu parce que je savais à quoi m'attendre d'un sens au niveau de la sécurité. Alors ça, je suis retourné faire le saut en parachute, cette fois-ci pour de vrai. Puis j'ai repris un autre Hornet Energy juste avant. Et c'était juste assez pour comme, me donner le petit boost de comme, OK, ben, let's go, on va le faire. Là. Puis on voit aussi la différence de le bungee puis le saut en parachute. Après avoir fait le saut en bungee, j'ai eu beaucoup moins de stress d'un sens parce que j'avais l'énergie pour.
Ah oui, 100%.
Puis au-delà des peurs, admettons, c'est sûr, tu vins des peurs en faisant ça, qui était ta peur, l'acrophobie. Mais j'imagine que plus loin que ça, il y a des choses que tu apprends sur toi-même puis que tu comprends un peu dans la vie. Tu sais, juste la confiance, j'imagine, ça l'amène une sorte de confiance. Tu pourrais-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça l'a amené pour toi, autre que vaincre ta peur? Est-ce qu'elle est vaincue, premièrement, puis deuxièmement, qu'est-ce que t'as amené d'autre de faire tout ce processus-là?
Ben, tu sais, cette grosse peur que j'avais est complètement vaincue. J'ai plus peur de voir les hauteurs, même que j'adore les hauteurs maintenant.
Shout out!
T'sais, c'est vraiment... Puis Geneviève me l'avait dit, elle a dit, je vais te faire adorer les hauteurs. Il y a une partie qu'on n'a pas vue dans le documentaire parce qu'on n'avait pas la personne pour nous filmer, mais c'est quand elle a ouvert le parachute, je me suis quasiment mis à broyer parce que je voyais les hauteurs puis j'étais comme, c'est juste beau, man. Mm-hmm. T'sais, c'est juste beau. Ce que j'avais réellement peur, j'avais peur des hauteurs, mais j'avais surtout peur pour ma sécurité. Donc, de voir que j'étais en sécurité, mais qu'on voit le monde, on voit les montagnes, j'avais vu genre un arc-en-ciel, il y avait le rideau de pluie un petit peu plus loin, j'ai tout vu ça, et c'est là que j'ai réalisé, OK, mais les hauteurs sont remplies de beauté, puis Geneviève me l'a clairement fait montrer, et ben, c'est grâce à elle que j'ai pu vraiment comme réaliser que j'avais, j'ai pas envie de dire une passion d'un sens, mais que j'aime énormément les hauteurs, ce qui m'annonce justement à faire éventuellement plusieurs projets qui s'en viennent, qui sont déjà planifiés, qui nécessitent beaucoup d'auteurs.
Nice. On ira en hiking à un moment donné ben ensemble.
Oui.
Ça, c'est...
Ben oui,
tu parlais d'auteurs, puis je pense que c'est là aussi. Hein, tu sais, quand tu es en train de marcher dans les montagnes, ça, c'est le plus... Moi, je trouve que c'est ça le plus trippant. Tu sais, tu marches dans les montagnes, puis tu vois pas que tu es vraiment haut. Tu sais. Tu sais que tu es en train de marcher à genre... tu sais que le dénivelé, il monte, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Mais tu sais, souvent, tu regardes derrière toi, puis tu vois, tu sais, tu as monté un petit peu, mais tu vois pas grand-chose. Mais quand tu arrives en haut, puis il y a plus d'arbres, puis rien, puis tu regardes ça, puis tu es comme, oh my God, c'est incroyable.
C'est une des meilleures parties du hiking. Ouais, ben oui. La partie sportive de monter, c'est le fun, mais c'est de voir la hauteur juste après. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pu expérimenter, sauf une seule fois avec une école. On avait comme sorti dans une sortie scolaire. Et fallait monter justement une montagne, mais on n'était pas non plus trop haut. Donc, tu sais, j'ai pas vraiment senti d'acrophobie de ce côté-là. Mais, tu sais, ça, c'était en 2021. Puis, tu le réalises juste à la fin. Puis, tu te rends compte à quel point c'était merveilleux. Mais moi, quand j'avais été faire ça en 2021, j'ai pas vu à quel point c'était beau parce que je pouvais pas regarder.
100%. Puis, je pense que c'est une question aussi que ton acrophobie, dans un sens, même si ça aurait été une montagne plus haut ou quoi que ça. Puis, on était avant 2021 parce que c'est 2021 que tu as eu. T'as eu ça, mais je pense que aussi ça enlève sur l'appréciation des hauteurs dans le sens que tu peux pas apprécier parce que tu es dans la peur. Puis je pense que la peur comme énergie, si on peut dire ça comme ça, c'est quelque chose qui est excessivement fort, qui stresse, qui bloque tout tes muscles, qui te crispe, qui te permet pas de penser parce que tu veux pas. Le cerveau, c'est un muscle aussi, right? Fait que ouais. Quand tu as peur, ben c'est comme si tout se crispe, puis on dirait que t'arrêtes, t'as de la misère à penser, tu sais, t'es plus capable de penser. Je te prends l'exemple le plus banal qu'il n'y a pas. Quand on faisait nos examens là, à l'école, là, puis qu'on anticipait l'examen, puis on dirait qu'au fond de nous, on se disait qu'on allait couler parce qu'on avait peur, parce qu'on se disait « Ah, j'ai de la misère avec cette matière-là, whatever. » Mais qu'est-ce qui arrive durant l'examen? Tu stresses. Puis le stress, veut pas, c'est une genre de peur, veut pas, parce que tu te dis « Ah, tu sais pas si tu vas être capable de réussir, etc. » Puis là, ça te met comme dans cette énergie-là, dans ce mindset-là que ah, finalement, t'es pas capable, puis après, ben oui, ben, comme de fait, tu coules l'examen parce que t'étais pas capable de penser, étant donné que tout était crispé, pas capable de bien passer, etc. Puis je pense aussi que quand t'es capable de vaincre justement cette, dans ton cas, l'acrophobie, ben là, tu peux vraiment apprécier la chose comme étant, ok, ben, il y a rien à avoir peur, tu sais, je suis là, puis c'est beau, c'est. Tu sais, moi, c'est comme le ski, on dirait que ça, on parle d'une phobie un peu, tu sais, j'essaie de le faire, mais. Le ski, je me dis tout le temps, man, on dirait au fond de moi, il y a toujours ma voix qui me dit « Yo, tu vas te péter à gueule solide, man. » Tu sais, parce que ça drop. Ouais, tu sais, puis je veux dire, t'es sur deux skis. Jamais fait de ski de ma vie. J'arrive là, on me dit « OK, il faut que tu descendes. » Là, les seules montagnes que j'ai fait deux montagnes dans ma vie. La montagne pour les enfants, puis il m'a dit que je descendais à 40-45 km/h, puis les parents avaient le goût de m'étriper parce qu'ils étaient comme... Qu'est-ce que tu fais à descendre free fall comme ça?
Ben oui.
Tu sais, je suis pas capable de tourner, je sais pas. Là, j'ai pris des cours, là. Je vais aller faire justement, je pense que c'est ça la façon sensée, parce qu'on dirait que mes amis me disent fais ça, mais je veux pas les écouter, genre. Fait que des fois, quand tu as un prof puis tu vas apprendre, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait longtemps puis qu'il est dans une position, si on veut, d'autorité. Puis c'est pas juste ton ami qui te fait dire « fais ça », puis toi, dans ta tête, t'es juste genre « yo, ferme ta gueule, man, j'ai le goût de descendre, man ». Puis la dernière fois, c'est ce qui s'est passé, j'ai collé un rescue aussi sur une piste verte, tu sais, parce que j'étais comme « j'étais pas capable de descendre, man, je descendais à chaque fois que je descendais à 40, je descendais tout le temps en ligne droite, ça va bien, jusqu'à temps que tu arrives à 50, 60, puis t'attends la palette commencer à faire ça, là, tu dis « ok, ouais, c'est le moment où je dois me mettre à terre parce que je veux pas rentrer dans personne, etc. » Mais tu sais, il y a cette peur-là, puis là, t'as peur, t'es ses skis, puis là, tu n'es plus capable d'agir de manière sensée. Parce que c'est comme si la peur, elle s'en va sur tes épaules. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant comme question tantôt que le 4 se posait justement. C'est quoi un peu comme, tu sais, les atouts, si je peux dire, que tu as développé avec ça en combattant ta peur. Est-ce que tu as beaucoup plus de discipline sur toi-même? Est-ce que, genre, c'est quoi que ça t'a permis de développer tout
ça? J'ai beaucoup plus confiance sur de futurs projets.
Okay.
Donc, tu sais, ça m'a permis de justement savoir que si j'ai réussi à battre ma peur des hauteurs, qu'est-ce que je suis capable de battre d'autres? Mm-hmm. Ça, c'est la peur des hauteurs, mais je peux avoir la peur du ridicule d'un sens, je peux avoir la peur, tu sais, il y a plein de peurs en tant que telles. Puis c'est facile de se dire, hey, you know what, je vais les battre. C'est super facile. Puis qu'est-ce que ça m'a le plus apporté? Ben, c'est des prochains projets. Mm-hmm. C'est des prochains projets qui s'en viennent. Puis au niveau de la confiance en moi, ben, 100%. Maintenant que je sais que j'y suis arrivé à ça, ben, qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre après?
100%. Puis c'est, je pense que c'est aussi de le faire, hein, comme tu l'as dit. Puis tu l'as prouvé dans ton documentaire aussi. T'sais. Moi, j'ai un peu, pas cette phobie-là, mais. T'sais, si tu parles de phobie, un peu le rejet, je pense qu'on l'a tout veut pas de notre côté, qu'on a peur des fois de se faire rejeter. Comme le meilleur exemple, c'est des exemples d'approcher une fille qui est de ton goût, exemple, puis tu marches dans la rue, puis tu vas aller l'aborder, etc. Mais là, ton cerveau, il essaie de trouver mille et une raisons de pas le faire. Mais que, actually, si tu le fais, tu as beaucoup de chances de repartir avec son numéro de téléphone, puis tu vas être super content après. Tu sais, je me suis prouvé à moi-même que. Je suis capable de le faire et tout, mais ça a été un travail sur moi-même, dans le sens que c'est je pense que c'est juste dans l'art de parler avec les gens, d'approcher les gens puis de parler. T'sais. Surtout on va dire à Montréal, etc., on le remarque pas tant, mais j'étais allé à New York il n'y a pas tant longtemps. Puis je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais durant mon trip, j'ai regardé une vidéo, puis le gars, dans le fond, il fait du contenu sur Instagram, puis c'est quoi qu'il fait? C'est qu'il complimente monsieur, madame, tout le monde. Juste pour avoir des petites interactions super positives avec monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, il va dire whatever, qu'elle a un beau manteau, que, tu sais, dire aux gars qui travaillent en construction, eux, lâche pas, man, c'est important ce que tu fais, tu sais, des petites affaires de même. Puis, je l'ai remarqué, tu sais, à New York, on se dit, à New York, on pense que, tu sais, c'est comme Cold City, le monde, ils parlent pas vraiment, ils sont tous main business, puis ils s'en vont du point A au point B sans parler à personne. Mais, man, j'ai fait genre peut-être. Je donnais peut-être, puis c'était des genuine compliments, là. C'était pas juste te complimenter pour te complimenter. J'en ai peut-être fait 50, 75 peut-être en une journée. Puis genre, il y a peut-être 85-90% des gens qui m'ont dit merci ou qui m'ont retourné le compliment. Puis on dirait juste à avoir ces petites interactions-là, ça créait une énergie, man, incroyable. Juste ce petit moment-là que tu as. De parler avec la personne, puis de juste comme avoir ce petit moment-là. Tu viens de faire sa journée à cette personne-là, parce que peut-être qu'elle avait une mauvaise journée, puis que juste le fait que tu lui as donné un compliment, sans nécessairement attendre quelque chose en retour, tu sais, ça l'a vraiment comme uplift, ça l'a mis dans un bon mood. Puis même chose pour, comme des fois je parle, des fois, whatever, que ce soit à Montréal ou je vais complimenter une demoiselle, puis c'est pas dans l'optique d'avoir vraiment son numéro de téléphone en bout de ligne. La personne est juste belle, puis, ou elle a juste un beau style, puis c'est juste nice, comme la voir, elle a une belle énergie, puis tout. Pourquoi pas juste lui dire, it's gonna put some light in her day, you know? Puis,
exact.
Mais c'est la peur du rejet que tu dis, ah ouais, mais ah, j'ai peur qu'elle me donne pas son numéro. Mais si on s'enlève ça de la tête que. Tu dis pas pour avoir son numéro de téléphone, c'est juste parce qu'on est des humains entre humains, puis on se complimente, puis que, tu sais, on est des bros, puis on est des sisters en bout de ligne, tu comprends?
Exactly.
C'est juste, je pense que c'est ça un petit peu, hein, c'est décortiquer un peu la peur, puis de d'incorporer sa sauce, puis de y aller comme ça, hein, je pense. Ouais. Que... C'est puis, important.
Ça m'amène à penser, tantôt tu parlais de bodybuilding, qui est quelque chose qui t'intéressait un peu, puis on se le cachera pas, dans l'acting, ben, le physique, c'est quelque chose qui est important. C'est ce que tu vends en tant que tel, c'est ce que la caméra perçoit, puis que les gens, le public, c'est ce qu'ils voient en premier. Y a-tu des choses que tu fais pour améliorer ton physique? T'es-tu un gars qui s'entraîne? T'as-tu des routines pour ta peau, des trucs de même? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse?
T'sais, en tant que tel, faut vraiment que... Ça, c'est des discussions que tu vas avoir beaucoup avec les agents, justement. Il faut absolument que ça change à chaque fois. Au niveau du corps, c'est un peu moins sévère ici au Québec, mais des fois, on va te demander justement de couper tes cheveux. T'sais, dans le documentaire, on le voyait, j'avais les cheveux jusqu'à là. Depuis, j'ai dû les couper, justement, beaucoup pour le casting. Fait que des fois, ça peut être quasiment être pareil dans le vrai milieu, je parle dans les grosses productions, où est-ce que tu dois perdre du poids pour un certain rôle, tu dois en gagner, tu dois build du muscle, etc. Donc moi, de mon côté, tu sais, oui, je m'entraîne pour le plaisir, mais si, exemple, dans 10-15 ans, si j'ai un rôle primordial dans une série puis qu'on me demande de passer 2 mois sans m'entraîner, juste manger de la scrap pour grossir d'une certaine façon, ben j'ai pas le choix de le faire. T'sais, c'est vraiment ça. Donc, j'ai des routines en tant que tel qui sont assez, au niveau de la peau, etc., oui, un peu. Mes cheveux, 100%, c'est mes cheveux, je prends toujours soin de mes cheveux. Au niveau du corps, comme j'ai dit, je m'entraîne vraiment pour le fun, mais ça peut changer à n'importe quel moment.
Oui, parce que c'est des choses qui peuvent te demander, comme tu dis, pour un rôle à l'autre, ça peut dépendre. Des fois, on pense toujours qu'il faut être en shape, mais il y a des rôles, des fois, c'est totalement le contraire. Ils veulent pas que tu sois en shape. Je pense à Dallas Buyers Club, qui est un film qui me vient en tête comme ça. L'acteur principal, Matthew McConaughey, si je me rappelle bien, il faut qu'il joue quelqu'un qui a le sida. Puis on le voit là, dans son rôle, il l'a tellement bien. Il est dépéri, il est tout maigre. Normalement, c'est un gars qui est assez fier, qui paraît bien. Puis là, pour ce rôle-là, il est méconnaissable. Sinon, des rôles comme le Joker aussi, pas le dernier qui vient de sortir, je l'ai pas vu, mais l'autre d'avant, le gars, vraiment, son physique, tu vois, là, qui est vraiment venu jouer avec, là, fait que c'est intéressant. Des fois, c'est comme c'est vraiment des challenges, tu sais, le monde pense des fois, ceux qui sont pas acteurs s'imaginent que c'est facile, tu joues un rôle, puis that's it. Mais toute la discipline derrière,
les sacrifices,
soit de t'entraîner pour être en shape ou totalement le contraire, ça peut être difficile aussi quand t'es quelqu'un de fier.
Exact. Tu sais, il y a une expérience qui avait été réalisée, je m'en rappelle plus trop, on en avait parlé, mais j'ai un blanc en ce moment. C'est un acteur en tant que tel qui avait un rôle de quelqu'un qui avait absolument peur, puis il était pogné dans la forêt ou un truc comme ça, une forêt qui était complètement gelée. Vraiment, ça, c'était son rôle. Mais 2 semaines avant le tournage, je pense, ou un mois avant, il a été vraiment s'enfermer dans une forêt pendant environ 1 semaine. Il a failli mourir parce qu'il voulait incarner son personnage le plus possible. Il y a plein de trucs comme ça que les acteurs doivent faire pour incarner leur personnage le plus. Et c'est pour ça justement que tu dois te mettre dans la peau. Faut que tu vis des choses dans la vie. Si tu t'es fait briser le cœur 0 fois dans ta vie puis que tu dois jouer quelqu'un qui s'est fait briser le cœur...
C'est ça,
tu sais pas comment jouer exactement.
Il y a rien qui parle plus que l'expérience, je crois. Exact. C'est souvent, mettons, des bandits, ils vont chercher quelqu'un qui l'a un petit peu en lui. Quand on est plus dans la comédie, souvent plus des humoristes. Mais sinon, le vécu, c'est ce qui parle, c'est ce qui est le plus réaliste. T'sais. Après ça, à un certain point, on peut pas tout avoir vécu qu'est-ce que le film s'en vient va être. Mais jusqu'à un certain point, pouvoir te rallier, où on voit même des fois des acteurs aller passer du temps avec certains gens qui vivent ce lifestyle-là, ou comme tu dis, ils vont vivre l'expérience d'aller dans le bois ou peu importe quoi, qu'est-ce que le casting va leur demander. Ils s'immersent dans leur personnage. Ce qui me fait penser, justement, je parlais du Joker tantôt, là, de l'avant-dernier, mais des années 2016, si je me trompe pas, le personnage... En tout cas, c'est ce qu'ils disent, qu'il est mort suite à avoir fait le Joker. J'oublie son nom de l'acteur, ça m'échappe. Mais
bon, c'est innocent.
Heath Ledger, exactement. Il a tellement voulu incarner le personnage. Alors, il s'enfermait dans des garde-robes pour la noirceur, puis comme aller chercher cet état-là d'esprit du Joker qui est vraiment spécial. La médicamentation, tout ça, là, fait que il a comme il l'a, puis he nailed it, comme on dit en anglais. Le personnage, il l'a vraiment eu, mais ça a eu le détriment sur son corps, sur sa santé, puis sa vie même, il a perdu la vie par la suite. Mais tout ça pour dire que ouais, des fois c'est des challenges immenses, puis il y en a qui relèvent le défi là.
Exact, tu sais, il y a plein de choses derrière la caméra en tant que tel que tu réalises jamais quand que tu regardes un film. Par exemple, ça c'est un exemple que plusieurs personnes utilisent, mais le nombre de takes que ça peut prendre aussi, une scène, les gens y pensent pas réellement, mais des fois, une scène qui peut durer au gros maximum 20 secondes, ben ça se peut que ça prenne 2 heures sur le plateau. Là. Ça se peut que ça prenne 2 heures, 3 heures, parce qu'il faut que tu aies la take parfait. Puis si c'est des scènes qui nécessitent, genre, par exemple, tu sais, moi j'ai une expérience il n'y a pas super longtemps où est-ce qu'on devait. On devait exploser des bonbonnes d'air, tu sais, pas des bonbonnes d'air, mais des bonbonnes de spray. Mm-hmm. Exact. Puis, mais tu sais, la scène dure vraiment 1 minute au gros maximum, mais ça nous a pris 3 heures de temps. 3 heures de temps parce que c'est, OK, ben, c'est exemple, on a fait des dégâts sur la place qu'on a fait le tournage, ben, il faut tout que l'équipe technique vienne tout ramasser, puis quand on reprend, ben, il faut que le son marche, il faut que si, ça, fait entre chaque take de cette scène-là, par exemple, ben, c'était un bon. 6-7 minutes à attendre, puis ensuite on recommence. Fait que tu sais, il y a ça, il y a le physique qui change, il y a plein de choses en arrière de la caméra qui est.
Puis l'émotion aussi après la 54e take, d'avoir la même émotion parfaite sur le moment.
C'est pour ça.
Les 3 premières fois, tu l'avais, mais là, après 54, un moment donné, t'es comme, mais non, c'est ta job à toi d'être tout le temps sur la même émotion, le même channel.
Tout le temps, c'est la stabilité dans le jeu. La stabilité dans le jeu, c'est quelque chose qui est très important. C'est d'ailleurs un des cours qu'on offre à notre agence. Même quand que tu fais une émotion qui est forte, comme par exemple quand tu dois pleurer sur commande, ben c'est quelque chose que tu dois faire à chaque fois. Si la take est pas bonne, ben tu le refais. Fait que t'arrêtes de pleurer puis tu repleures après. Toujours, toujours, toujours trouver une façon de rester stable dans ton jeu. Tout le temps.
Toi, t'es-tu capable de pleurer sur commande?
Tu es capable de pleurer sur commande, surtout dans les sets où est-ce que c'est plus intense.
Ouais.
T'as pas le choix. Fait que tu peux être. La scène peut être hyper drôle, mais si ton personnage est triste, faut que tu pleures pendant qu'il y a plein de gens autour de toi qui se mettent à rire.
Ah ouais.
C'est très compliqué.
Toi, pour aller chercher ces émotions-là, c'est-tu une image mentale?
C'est un throwback dans mon passé. C'est quelque chose qui est très répandu en fait, dans le domaine de l'acting. En fait, c'est que tu dois aller chercher les expériences de ton passé. Donc, même si des fois ça fait mal puis que tu n'as pas envie de penser à ça, tu sais que ça te fait mal puis ton personnage a mal, va aller chercher ton émotion.
Pour trigger cette émotion-là.
Exact. Ça peut être la même affaire pour. Ça peut être la même affaire pour la tristesse, ça peut être la même affaire pour la colère. Fait que, faut que tu viennes chercher tout. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui t'a trahi, par exemple, dans ta vie, puis que dans ta scène, ben, il y a quelqu'un qui t'a trahi puis que tu as envie d'aller chercher la même émotion, ben, replonge-toi dans les images, va chercher des photos au pire de la même journée au pire que c'est arrivé, puis replonge-toi dans ce personnage-là, puis quand tu arrives sur la scène, ben, tu nails. Puis c'est comme ça qu'on te remarque.
Puis as-tu une meilleure expérience un peu dans ce domaine-là, quelque chose qui est arrivé ou que tu as fait, que tu as fait partie d'un projet puis que tu étais comme « wow, je suis vraiment fier d'avoir accompli ça ». Puis l'envers aussi, y a-tu un moment où ce que je veux pas dire le pire, mais que « ah, ça, c'était peut-être pas ce que tu as aimé le plus faire du côté de la carrière de acteur ».
C'est très difficile à choisir une certaine scène parce que tu as plusieurs expériences sur un plateau. Mais clairement, une scène que j'ai vraiment aimée, c'était une scène où est-ce qu'on devait... je devais pleurer toute la scène. Ben, pleurer dans le sens... Je devais avoir les larmes aux yeux, mais pas pleurer genre vraiment très fort. Puis c'était juste une scène pendant un cours. C'était pas sur un tournage en tant que tel. Mais le derrière de ça, c'était avec une amie à moi, justement, qui fait partie de la même agence. Puis on avait un cours ensemble qui est devant les directeurs de casting qui, eux, ils sont là pour voir ton niveau puis peut-être éventuellement t'engager sur des séries éventuelles, t'sais. Fait que le but du cours, c'est vraiment de faire une certaine scène que t'as surécrit puis de jouer le personnage du mieux que tu peux. Puis cette scène-là, on s'est pratiqué 3 fois avant le tournage et constamment, c'était l'émotion très, très forte. Puis je me suis beaucoup rapproché de mes émotions de ce côté-là. Puis c'était du début de la journée de l'émotion, je parle du tournage, du début de la journée, genre à 10h, j'ai lu la scène, je me suis mis dans mon personnage. Puis là, c'était « OK, il faut que j'aille la voir ». Fait que là, bam, métro, mais dans le métro, t'écoutes la musique triste, faut que tu penses à la scène, puis il faut que tu penses à qu'est-ce qui se passe dans la scène. Puis là, quand je suis arrivé là-bas, ben, c'était la même chose. Tout le long, on pleurait d'une certaine façon. Puis là, bam, on arrive sur le lieu de tournage et sur le lieu de tournage, tu sais, à l'agence, on est tous vraiment friendly. L'agence Verso, c'est vraiment comme l'agence la plus friendly qu'on a. Puis sur ce plateau-là, ben, tout le monde avait des scènes qui étaient plus joyeuses. Mais moi, j'avais la scène qui était le plus hard à jouer. Fait que pour rester dans mon personnage, ben, je devais ignorer tout le monde. Je leur disais allô, etc. Mais t'sais, eux qui avaient du fun, qui riaient autour, ben moi j'étais dans mon coin avec mes écouteurs, puis je me mettais à broyer. J'étais comme, mais voyons, je peux pas croire que genre ma journée va être horrible si on passe comme ça. Mais au final, la meilleure expérience d'acting que j'ai eue, parce que juste après que j'ai entendu le cut puis que la scène était terminée, ben là, c'est je sors de mon personnage. Fait que, mais c'était dur de sortir du personnage parce que j'étais tellement dedans que même après, j'avais juste envie de broyer, j'avais juste envie d'être dans ma bulle, j'avais juste envie de tout ça. Fait que ça a pris un moment avant
de sortir de là,
de me remettre sur mes émotions. Puis quand que je suis revenu vraiment, genre, tu sais, j'ai été me changer parce que j'étais dans des habits qui étaient horribles, tu sais, pour incarner mon personnage. Ben, quand que je suis sorti, ben, puis que j'ai été me changer, ben, j'ai réalisé que comme, OK, c'est un esti d'émotion, là, tu sais, c'est fou, là.
Ouais, parce que les vêtements aussi, je pense que ça peut t'aider à t'amener dans un univers, un personnage, puis de les enlever, ça peut être comme la barrière de, comme... acting, quand je les ai, je suis un tel, mais quand je les enlève, je redeviens moi-même, je reprends ma partie.
J'ose. Exact. Tout ce que tu es capable de garder sur un personnage, ben, quand que tu reviens, il faut que tu aies les mêmes émotions que quand tu es arrivé. Donc, ça peut être des vêtements, ça peut être, je dis dans tout compte, ça peut être genre des bracelets ou des trucs comme ça. Si tu les as pas pendant une scène, ça va se sentir. Ça va se sentir en crise même. Fait que t'es tellement dans ton personnage que si t'as pas ton bracelet, ben des fois même dans la scène, ça peut arriver. Admettons, tu joues un certain personnage et entre deux scènes, for X reason, c'est arrivé que t'as perdu ton bracelet. Ben, peut-être même que tu vas tellement être dans ton personnage que tu vas genre réaliser pendant la scène, tu fais comme yo, mon bracelet, non,
ouais, ça devient comme un porte-bonheur.
Exact.
Là,
ça te dit,
t'es superstitieux comme pendant les joueurs
la scène. Pendant la scène, t'es comme je sais pas, j'avais mon bracelet qui est là, puis tu sais, tu fais juste sortir. Genre, tu restes dans ton personnage, mais ton personnage se rend compte que t'as plus ton bracelet. Fait que, c'est vraiment, c'est tout con, mais c'est hyper le fun.
Ouais, c'est vrai, des petits détails comme ça, c'est très important, t'as bien raison. Puis, admettons, on dirait là, les trois plus grands chefs-d'œuvre pour toi, autant, je sais que tu m'as parlé, c'était beaucoup les YouTubers, mais j'imagine dans l'industrie du film ou du documentaire, y a-tu trois projets que tu pourrais nous parler, admettons que pour toi, ça a vraiment changé, peut-être vraiment changé la vision que tu vois ça, ou juste ça t'a comblé, puis c'est tes films, tes documentaires, là, trois qui te viennent à la tête.
T'sais, au niveau de vidéos, par exemple, là, on reste sur le YouTube. Admettons, sur le YouTube, ça a vraiment été tout. Il n'y en a pas un en particulier. Ça a vraiment été de comme, OK, ben on passe, je sais pas moi, de quelqu'un qui ouvre des cartes Pokémon à quelqu'un qui parle de c'est quoi la vie en appartement, de quelqu'un qui parle de c'est quoi son jeu vidéo préféré, de quelqu'un qui parle d'un top. Bref, ça touche tous les milieux. Donc, juste de trouver cette créativité-là. Au niveau du documentaire, je reste très, très, très classique. Mais clairement, Kaizen de Inoxtag. Ça change ta vision sur tout. Est-ce que vous avez écouté Kaizen?
Non, moi j'ai écouté gros documentaire qui m'a justement donné le goût d'aller faire du hiking.
Exact. Exact. Dans le fond, le documentaire, c'est de quelqu'un qui, ben, justement, un YouTuber qui fait ça depuis des années, qui est toujours dans des studios, qui fait toujours des vidéos, qui sort jamais de sa chambre, qui fait juste être sur de l'écran. Puis il s'est soudainement mis à vivre la vie pour de vrai, puis en se donnant un objectif immense. Il avait jamais touché le milieu de l'alpinisme, mais il s'est dit, moi, dans un an exactement, je m'en vais monter le Mont Everest. Aucune expérience dans le milieu. Il faisait même pas de sport, il faisait même pas de cardio. Puis on voit dans le documentaire son expérience au complet de quelqu'un qui commençait avec zéro expérience. Puis au final, ben, spoiler alert, mais il a monté le Mont Everest. T'sais. Genre, il l'a monté en un an. C'est incroyable. Puis on voit que quand que tu donnes des objectifs, quand que tu te donnes la volonté de le faire, ben, Chris, tu vas y arriver. Là. Tu vas y arriver. C'est là pour ça de se donner des challenges. Puis lui, dans le fond, la morale, c'était vraiment de donnez-vous des projets, puis sortez de chez vous, sortez dehors, restez pas à travers les écrans. Puis ça, tu le ressens, tu ressens juste ça. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils ont senti que le message, c'est aller grimper l'Everest vous aussi. C'est pas ça, c'est aller chercher votre Everest, aller chercher votre challenge, aller chercher vos limites, puis soyez fiers de vous, puis ayez pas peur de fail d'un sens, mais ayez pas peur de. Comment est-ce que je pourrais dire ça? De manquer le projet ou de rater d'une certaine façon parce que vous apprentissez anyway. Donc, ça, c'est le message le plus important que j'ai connu, j'ai envie de dire, quasiment de ma vie. Là. Donc, ce documentaire-là, ça fait plus qu'une dizaine de fois que je me retape parce que le message derrière est tellement beau. C'est une des raisons de pourquoi est-ce que j'ai voulu me lancer aussi dans des projets éventuellement qui s'en viennent. Des documentaires comme ça, c'est le message est impactful, c'est incroyable.
Très intéressant, très intéressant. Puis sinon, toi, Tony, t'en as-tu des peurs? On parle d'acrophobie,
peurs, honnêtement,
il avait
de
dit que
semi... en ski, là, ça c'est une méchante peur. Là, peur de... Mais je pense que un peu la peur du rejet aussi, dans le sens que, tu sais, je ressors toujours le même exemple plate là, d'aller demander le numéro de téléphone à une fille. On dirait qu'il y a toujours ce blocage-là dans ma tête qui est comme, ah, imagine, ah, tu vas la déranger pour avoir son numéro de téléphone, blablabla. Bla, bla. Mais en bout de ligne, là, tu vas juste mettre de la joie dans sa journée. T'sais, c'est... Mais je pense que notre esprit a un côté un peu saboteur. On est un peu notre...
On a peur d'avoir
peur.
On est
un peu notre meilleur ami puis notre pire ennemi en même temps parce que on a toujours un côté de notre cerveau qui va essayer de nous garder, de nous hold. Comment je pourrais dire ça, nous garder? Attends, je vais te l'ouvrir.
Merci.
Mike. Mais ouais, t'as comme toujours ce genre de côté-là, auto-saboteur, si on peut dire, qui va dire « Ah, tu vas pas être capable de le faire, ah, si, ah, ça. » Puis je pense que, tu sais, je l'avais avant, je l'ai beaucoup moins maintenant, là. Mais je pense que c'est juste de le faire, puis comme tu le fais, Sheldon, man, c'est d'aller faire l'expérience, puis de juste essayer de mettre ta petite voix, là, fatigante, on hold, puis just do it, là.
Fais-le une fois, puis ensuite, ça va être, tu vas déjà l'avoir expérimenté.
Exact, puis ça va être plus facile. Plus que tu vas le faire, plus que ça va être facile, d'où la raison pourquoi, justement, à New York, je parlais avec tout le monde, puis... Que je donnais des compliments à tout le monde pis tout, parce que le plus que tu le fais, le plus que tu deviens à l'aise à le faire, je pense. Pis
exact.
C'est comme ça que ça
débloque. C'est comme ça que tu bâtis ta confiance aussi, hein. Toutes les peurs que tu vas passer par-dessus, ça va t'aider à devenir quelqu'un de plus grand, bâtir ta confiance, puis d'avoir moins peur par la suite aussi, que ce soit de parler avec des filles, parler avec quelqu'un, mais juste bâtir ta confiance 100% de toi-même.
Pour laquelle, justement, que moi, tu sais, de mon côté, quand que j'ai battu le bungee, ben, maintenant, j'ai juste hâte de retourner le faire. Genre.
Exact.
J'ai juste hâte parce que c'est le fun. C'est tu te rends compte que finalement, il n'y a pas à avoir peur.
Non.
Donc, c'est ça qui est le fun.
Exactement.
La peur dans la vie, c'est ce qui nous bloque souvent à réaliser qu'est-ce qu'on voudrait réaliser. C'est un blocage, c'est une barrière. On se dit qu'on n'est pas capable, on dit qu'on n'est pas bon. Ou des fois, 100%. C'est juste ça. D'autres fois, c'est des levels de plus comme toi qui a vraiment la peur. Tu peux en pleurer, tu t'es pas capable de le faire, tu sais.
100%.
Moi, j'ai toujours, pour ma part, j'ai toujours été quelqu'un, comme tu mènes peur, j'y donne un uppercut, comme j'en veux pas de peur. Je me rappelle, j'ai mes plus loin souvenirs, j'ai peut-être 8 ans, j'ai peur du noir. Je me rappelle aller dans le sous-sol chez nous, pas de lumière ouverte, la pièce la plus profonde, m'asseoir là, puis rester là pendant une heure, puis me dire j'aurais plus peur de ça. À chaque fois que j'ai eu une peur dans ma vie, je l'ai affrontée en pleine face comme un boxeur parce que j'en veux pas de ça. Je parle par expérience pour moi. C'est comme ça que je l'ai vaincu. Sinon, un peu plus tard dans ma vie d'adulte, c'était les foules un petit peu. Je suis pas un gars qui aime quand il y a plein de monde, des foules. Ça, la même chose aussi. J'allais tout seul dans un show de 100 000 personnes puis je me mettais en plein milieu de la foule juste pour vaincre cette affaire-là puis sortir... Puis ça t'amène beaucoup, tu sais, je suis pas là pour brag des affaires de même, mais ça t'amène la confiance par la suite, puis d'avoir peur, tu sais, c'est un peu comme un déficit, dans le fond, c'est un bagage lourd que tu traînes avec toi qui t'empêche d'avancer dans différentes circonstances. Fait que c'est toujours bon de les vaincre, ces peurs-là, parce que tu sais pas non plus quand est-ce qu'ils vont arriver devant toi, puis ils vont pouvoir te retenir dans certains projets, tu sais, je pense à toi acting, qui avait peur des hauteurs. Là, qui l'a pu cette peur-là, ça peut débloquer des rôles que tu aurais peut-être dit ah non, moi, ça, je le fais pas, je m'en vais pas là, tu sais. Ah, c'est pas pour moi, ça va pas bien sortir sur caméra parce que j'ai peur, tu sais.
Mais tu sais, en plus, moi, quand, plus jeune, comme je disais, je faisais du parcours, donc c'est très similaire à de la cascade. Puis avant, back in the days, j'avais peur de me lancer justement faire des flips, etc. Donc là, j'ai battu ma peur. Puis aujourd'hui, les rôles que je peux avoir qui fait de la cascade, même si t'es pas un personnage en tant que tel, même si tu fais juste être le cascadeur du film, ça te ramène des expériences de fou, puis c'est juste le fun, c'est maintenant que tu t'en rends compte.
C'est vrai, parce qu'il y a ça aussi dans l'univers du acting, on oublie, mais il y a les cascadeurs, c'est quelque chose qui t'intéresserait peut-être aussi, maintenant que t'en parles, ça me fait penser.
Honnêtement, oui. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu ailles quand même une certaine formation de ce côté-là. Moi qui ai hâte de faire comme un backflip ou un sideflip ou whatever it is, ça va peut-être pas m'aider à prendre un coup puis tomber sur mon dos. Right? Fait que c'est vraiment plus de ce côté-là, mais ça m'a aidé à être comme très à l'aise avec mon corps. Et si, exemple, je dois avoir comme à tomber ou des trucs comme ça, ben, je suis plus à l'aise qu'avant. Mais toujours à avoir des formations de ce côté-là. Puis je m'en vais dans une formation, je pense, dans 2 semaines, même pas là, pour une formation de cascadeur.
Nice.
Donc on va voir comment ça marche de ce côté-là. Mais oui, c'est sûr, c'est une porte ouverte pour éventuellement. Le milieu.
Ok, ouais, cool, fait que j'ai visé juste, là, tu vises un petit peu ça en ce moment, c'est un petit peu ton état d'esprit, là, peut-être la cascade. Puis on le sait, je pense qu'au Québec, premièrement, dans l'univers du film, je pense que dans les 10 dernières années, ça bouge de plus en plus. On voit avec les studios Melz, beaucoup les États-Unis, les Américains viennent filmer ici. On a 4 saisons, ça paraît bien des fois sur l'écran. Ils peuvent montrer que on peut être comme similaire à la Russie, on peut être similaire à la France. Ils sont capables d'aller chercher un petit peu des architectures comme ça. Je pense que Montréal, on est un peu une ville... avec cette essence-là qui reflète un petit peu partout à travers le monde. Fait que c'est intéressant pour eux. Les coûts aussi, je pense que ça coûte beaucoup moins cher ici, filmer puis créer des scènes dans nos studios. Fait qu'ils amènent de leurs acteurs ici pour faire des scènes. Je pense aux Avengers, ils ont eu beaucoup de scènes ici filmées là, dans les studios avec...
Ben, Jackie Chan aussi.
Le dernier?
Pas Jackie Chan, mais le Karate Kid. Okay. Ils ont eu un tournage, je pense que c'est cet été, puis cet été, ça a été à Montréal.
Okay.
Faire de la cascade à Montréal, c'est beaucoup moins cher, j'imagine.
On en voit de plus en plus.
C'est des villes qui sont, j'ai pas envie de dire ambassadeurs, mais qui sont très, très populaires. En fait.
Des villes fortes, ben ouais. 100% dans... Puis surtout, même, comme tu disais, New York aussi, hein, y a beaucoup de monde qui viennent filmer ici à Montréal. Puis
la ville peut ressembler, ils sont capables de faire comme s'ils sont à New York, ici à Montréal.
100%.
Avec la neige, nos forêts, ils peuvent faire des scènes comme s'ils sont en Russie ou en Ukraine, des trucs de même. Japon, on a un petit peu l'essence des autres mondes. Nos saisons, c'est intéressant aussi pour eux autres, parce qu'ils sont capables d'aller chercher différents univers, dépendamment de quelle saison on est dans l'année. Non, je pense que ça se développe de plus en plus. Sinon, c'est sûr, ici, on a les budgets, des fois, pour ce qui est des films d'action. Ben, t'sais, on n'a pas nécessairement les budgets des Américains. Fait qu'on le voit, nos films qui sont les plus effervescents, ça va être dans l'humour, dans le drame. Sinon, il va y avoir un peu de suspense, d'horreur. Mais on est beaucoup dans l'humour et dans le drame ici au Québec avec nos téléséries, nos films. Puis on l'a bien, hein, c'est pas pour rien. Les humoristes, on le voit, c'est quasiment ceux qui réussissent le mieux dans le milieu artistique ici au Québec, à Montréal.
Bon Cop, Bad Cop, ça, c'en est un film qui avait quand même marché super bien. C'est quoi l'autre flic? Père en flic aussi, je pense. Oui. Qu'il avait quand même bien marché, c'était quand même bon. Mais...
Moi, je me rappelle, jeune, j'essaie de ne pas oublier le nom, Michel Jeté. Shout-out à toi, je ne sais pas si tu vas écouter ça un jour, mais c'est le réalisateur du film Hochelaga, puis Histoire de peine. Puis quand j'étais jeune, ben, son fils, c'était mon ami. Puis je me rappelle aller dans son sous-sol puis voir ça, les cadres Hochelaga. J'ai peut-être 8 ans à ce moment-là, je sais même pas c'est quoi. Il y a des vestes de motard puis tout, là, je sais pas trop. Moi, je connais pas ça à cet âge-là. Mais là, aujourd'hui, je réalise que dans le fond, c'est ça. Son père, c'était le producteur de ces films-là. Je sais pas si vous les avez vus. Des gros films à saveur beaucoup sur les motards, justement, sur cet univers-là, mais vraiment bien tourné. Dur un peu là, sur le visuel des fois, mais c'est ça, c'est le monde interlope. Il a vraiment transmis sur caméra qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce monde-là. Puis c'était ça, moi, un peu mon initiation avec ça. Le petit gars, à ce moment-là, m'en parlait pas vraiment, mais je me rappelle, son père était toujours dans le sous-sol en train d'écrire, puis c'était sombre, des posters de films.
Ben c'est ça, tu sais, on parle beaucoup du métier d'acteur, mais le métier de réalisateur, le métier de celui qui écrit le script, j'ai oublié c'est quoi le nom? Le
scénariste.
Le scénariste, ouais. Le scénariste, il y a vraiment plein de milieux qu'on réalise pas à quel point il y a du travail derrière, man. Surtout le scénario, justement, c'est pas juste t'écris le texte puis t'es fier. Sur des mois et des mois, tu relis ton texte puis t'es comme, ouais, non, il y a toujours quelque chose qui cloche.
Oui, la mise en perspective, les personnages qui sont très importants, les émotions que tu vas aller chercher, les environnements, les années que tu veux refléter. Faut tout que tu penses à ça pour que ça ait vraiment l'air réel, là, tu sais. Tes acteurs aussi.
Faut que tu choisis ton casting comme tu dois.
Il y a tellement de détails, tu sais. Après ça, tu veux filmer une scène à l'extérieur, finalement, journée-là, il pleut, il fait pas soleil, toi, il te fallait telle température. C'est vraiment complexe, mais au final, quand tu réussis à capturer pas juste une émotion, pas juste une image, mais vraiment tout ça mis ensemble, ben c'est là que le public embarque vraiment dans l'histoire, puis ils finissent le film, puis ont l'impression qui l'ont vécu quasiment l'affaire, là, ils sortent de là, tu sais, mettons un film d'horreur, des fois, là, t'as la frousse, t'as peur, ou un film d'action, t'as cette espèce de sentiment-là, t'as le goût d'en donner. Je me rappelle, jeune, des films comme, justement, Jackie Chan ou Bruce Lee, tu finis de l'écouter, puis t'as le goût de donner un coup de pied dans les airs, là, tu sais, là. T'es dedans, là, tu sais, ça t'amène ça, un peu comme la musique, tu sais, c'est un autre outlet, mais c'est l'art, on en a déjà parlé sur la plateforme, on reçoit plein d'artistes de tout genre différents, puis la peinture, ça t'amène à une émotion, la cuisine t'amène à une émotion, la musique à une émotion, le film aussi. Ce qui est intéressant avec le film, c'est que non seulement t'as l'image, mais t'as le son aussi, la bande sonore complète le film, les acteurs, tu sais, il y a plusieurs layers à tout ça.
Des fois, le message aussi en arrière du film, ça te, tu réalises plein d'affaires. T'sais. Là, je reprends le documentaire de Inoxtag, mais t'sais, il t'a demandé de sortir, tu as compris le message, ben c'est vrai que tu as envie. T'sais, genre, pareil comme Tony y a dit, il s'est mis au hiking grâce à ça, puis c'est je vais pas m'en dire que moi aussi, justement, ça m'a motivé à sortir. Puis le projet de Vince son acrophobie était sorti, ben, était filmé, fini de réaliser avant Kaizen. Mais il est sorti environ dans les mêmes temps. Mais c'est vrai que maintenant, c'est comme, oui, je me suis déjà initié à ce projet-là, mais là, j'ai juste plein d'autres projets qui nécessitent beaucoup de sortir de ma zone de confort.
Ben yo, man, shout out à toi, man. Merci pour cette belle conversation-là, puis de nous plonger un peu dans ton univers, puis les détails de ça, du acting, puis des studios, puis un peu qu'est-ce que tu vois ta carrière sur les prochaines années, beaucoup dans l'autoproduction, beaucoup. Là, tu nous parles de cascade aussi, tu sais, c'est intéressant, tout ça, c'est pas des choses que c'est la première fois qu'on en parle ici sur la plateforme. Moi, je trouve ça bien intéressant. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ben, ça me fait absolument plaisir. Merci énormément de l'invitation. C'était incroyable pour vrai.
Ça fait plaisir. Merci à toi. On va peut-être te revoir après une couple de projets. Là, j'ai hâte de voir ça. Stay tuned, guys. On va vous mettre les liens justement sur description. Là, yes, des documentaires. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient, man.
Très gros projet qui s'en vient qui va être annoncé dans quelques semaines, peut-être même quelques mois.
Nice.
Au gros maximum.
Stay tuned, guys.
Je suis ça, les gars. Merci pour un autre bel épisode. Élevez la plateforme de l'heure. N'oubliez pas d'aller vous abonner, de liker, de commenter. C'est ce qui nous donne la force et qui nous fait continuer d'avancer. Le Cats, Tony, Sheldon Placido avec nous aujourd'hui. And we out.